L'édition de la mi-journée de ce 21 décembre, voici maintenant toute l'info près de chez nous, c'est avec Fabien Gazot, bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. Le syndicat du Val-de-Loire va appliquer une hausse des tarifs de l'eau l'année prochaine, sont concernés tous les abonnés du nord de Sèvres. Devant la pénurie de main-d'œuvre, les immigrés constituent une solution pour les entreprises qui peuvent passer par les clauses sociales. Explication à suivre. La Confédération paysanne des Deux-Sèvres est en alerte sur le projet de méthanisation de Nueil-les-Aubiers et se réjouit de la rallonge accordée pour les MAEC. La réorganisation du service des bibliothèques de l'Aglo de Bay se met en place sur le terrain, exemple ce midi sur les communes déléguées de Bressuire. Le club de boxe de Bressuire s'implante aussi désormais à Nueil-les-Aubiers. Un gala sera organisé en mars 2024. Un appartement en feu hier après-midi dans le quartier du Clou-Boucher à Niort, au premier étage d'un bâtiment en comptant 4. 30 personnes ont été mises en sécurité. Les 3 occupants de l'appartement ont dû être relogés. Selon le Courrier de l'Ouest, les agriculteurs ont déversé des pneus et du fumier. Hyper soir, devant les supermarchés Leclerc, Hyper U et Aldi de Parthenay, les agriculteurs ont aussi obstrué les entrées de la sous-préfecture de Parthenay et de la direction départementale des territoires à Niort, avenue de Paris. L'eau du robinet coûtera plus cher l'année prochaine. À l'heure du débat d'orientation budgétaire, les élus du syndicat du Val-de-Loire, qui dessert 85 000 habitants en Nord-de-Sèvres, ont voté hier soir une augmentation à l'unanimité, moins une abstention, hausse de 10 centimes pour le particulier, 15 centimes pour les entreprises, soit un prix de 1,36 euros le mètre cube pour le particulier, 1,25 euros pour le professionnel. L'abonnement ordinaire augmentera quant à lui de 5 euros sur l'année. Une hausse des tarifs liée à des ventes d'eau à la baisse, combinée à l'augmentation du prix d'achat de l'eau du Sébron, la principale ressource du SVL. Les explications de la présidente du syndicat, Dominique Régnier, au micro de Jacqueline Pinon.
À partir du moment, effectivement, on a moins de ventes d'eau, on a une diminution de nos recettes. C'est incontestable. Il y a aussi un autre élément qui entre en ligne de compte dans cette augmentation, c'est le renouvellement du réseau. Quand nous disons qu'il faut préserver la ressource, il faut que nous évitions au maximum les fuites sur notre réseau. En conséquence, nous faisons la chasse aux fuites. Dès l'instant où vous faites la chasse aux fuites, il faut engager des dépenses d'investissement qui sont lourdes en matière de renouvellement de réseau. Et là, c'est très important. Je dirais que nous sommes des bons élèves parce que nous sommes entre 87 et 89% de rendement de réseau, avec un indice linéaire de perte qui est inférieur à 1 mètre cube par kilomètre et par jour. Donc on est très faible, on est à 0,80 à peu près. Je mets l'accent sur le fait, comme je l'ai dit ce soir, si effectivement on avait un indice linéaire de perte comme la moyenne nationale, qui est à plus de 3 mètres cubes par kilomètre par jour, il nous faudrait 2 millions de mètres cubes en plus. Donc ce serait quand même très important. Et donc, il nous fallait augmenter le prix de l'eau.
6 millions d'euros d'investissement sont également programmés en 2024 afin de sécuriser la distribution d'eau en continuant le programme de renouvellement des canalisations. La loi immigration a été adoptée donc par l'Assemblée nationale. C'était mardi soir. L'emploi des migrants et leur intégration font bouillonner les politiques au plus haut niveau, du travail contre des papiers ou des papiers de séjour contre du travail. Au cœur des territoires, la gestion est plus réaliste, comme l'explique Frédéric Mangeant, facilitateur des clauses sociales à Thouars, Bressuire et Loudun. Son job, c'est précisément de faire le lien entre les migrants et les employeurs qui ont du travail à proposer. Il est au micro-colline de Dominique Hérault.
Plutôt que d'avoir des gens qui passent d'une structure à l'autre pour essayer de trouver du travail et le travail leur permet d'avoir des papiers, nous on a des entreprises qui ont des besoins, donc on peut leur proposer le public. Souvent ça matche bien d'ailleurs, hein. Nous on s'est rendu compte qu'il y avait des freins, mais qu'on était capable, si on communiquait les uns avec les autres, de faire intégrer ces gens dans les entreprises et que la plupart du temps ça marchait très très bien en plus. Donc, il faut qu'ils aient l'autorisation de travailler, mais généalement leur autorisation de travailler elle est sur courte durée. Et s'ils obtiennent ce travail et qu'il y a des promesses d'embauche derrière, sur du temps plus long, ils vont avoir des papiers qui leur permettent de rester beaucoup plus longtemps et de trouver une situation beaucoup plus stable. On a aussi des situations où l'employeur est OK pour signer une promesse d'embauche, mais il ne faut pas que les papiers attendent 3 mois ou 4 mois, parce qu'il a besoin de cette personne d'entreprise. Il faudrait pour ça que ça aille un tout petit peu plus vite au niveau administratif.
Une trentaine de migrants pourraient intégrer à un emploi vacant sur ce périmètre, Thouars, Bressuire, Loudun. Encore faut-il que les centres d'accueil des demandeurs d'asile soient informés, car des ces exemples sont là pour attester de la valeur de l'engagement de cette déplacée, Frédéric Mangean.
Il y a des belles réussites, hein, des gens qui étaient sur le territoire depuis au moins 2 ans principalement avec des Afghans, avec aucune heure de travail parce que personne n'osait les mettre en emploi parce qu'ils ne parlaient pas français, hein, entre autres, sans savoir vraiment quelles étaient leurs compétences. Et grâce aux clauses sociales, on a réussi à avoir cette première heure de travail qui a donné des contrats aujourd'hui CDI ou CDD très longs. Ouais, des très 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 belles réussites. Malgré les difficultés administratives, on a aussi, parce qu'on est capable de mettre des beaux dossiers en place, on a quand même aussi les services de l'État au niveau des Deux-Sèvres qui peuvent nous aider.
Et c'est la raison pour laquelle une réunion d'information a été organisée dernièrement à Thouars pour mettre de l'huile dans les rouages administratifs. Sachez, pour être complet, que cette semaine à Paris, le guichet des clauses sociales du Nord-Poitou, animé par Frédéric Mangean que vous venez d'entendre, s'est vu décerner un trophée national pour la mixité de son public. Reportage de Dominique Hérault. La Confédération paysanne des Deux-Sèvres en alerte sur le futur projet de méthanisation de Neuilly-les-Aubiers. Cette unité portée par Engie Bioz, filiale du groupe industriel Engie dédié au biométhane, devrait voir le jour en 2026. Un compromis de vente de terrain appartenant à l'agglomération du Bocage-Bressuirais, zone de Proulin, à côté des abattoirs Galliens, a été validé. Un projet qui interpelle la Confédération paysanne, venue exprimer son inquiétude sur place hier après-midi. Son porte-parole, Benoît Jaunet, au micro de Jacqueline Pinon.
On est plutôt très interrogatif parce qu'on voit les choses par voie de presse où il y a un assemblage qui nous dit pourquoi pas récupérer les déchets industriels de l'abattoir, peut-être un potentiel de produits agricoles. Et là, aujourd'hui, on vient plutôt interroger en disant mais avec quoi il va être nourri, ce méthaniseur? Parce qu'aujourd'hui, ceux déjà en place, même s'ils pouvaient être vertueux sur le territoire, aujourd'hui, ils ont emmené une diversification qui prend de plus en plus de fourrage sur les terres agricoles, qui vient de plus en plus concurrencer le fourrage pour nos animaux. Et c'est vrai que ça, c'est un réel problème. Ça emmène derrière une inflation des coûts des fourrages, en concurrence les années de sécheresse, une envie pour certains de s'agrandir et donc de faire des cultures spécialisées dédiées à la méthanisation. Donc là, aujourd'hui, on préfère être interrogatif et venir alerter pour avoir des réponses et préciser que nous, à la Confédération paysanne, on n'a rien contre la méthanisation. Ce qui nous pose problème, ça peut être son échelle sur le territoire avec lequel il est fait et avec quoi il est alimenté. Tant que ça restera un produit, une méthanisation industrielle dans une zone industrielle, ben ça nous regarde peu. Effectivement, si ça vient venir toucher le domaine agricole, on va surveiller ça.
La Confédération paysanne, qui en termes agronomiques insiste sur la qualité des terres de ce secteur et appelle à conserver le carbone dans les sols plutôt que de l'envoyer dans les tuyaux. En revanche, le syndicat agricole, qui était aussi monté au créneau il y a quelques semaines pour dénoncer le manque de budget propre aux mesures agro-environnementales et climatiques, s'est dit satisfait de la nouvelle enveloppe de 150 millions d'euros annoncée par le ministre de l'Agriculture. Elle vient s'ajouter aux 820 millions initialement prévus.
Effectivement, on est très satisfait de l'annonce. Elle est un peu tardive parce qu'on a commencé à se mobiliser quand même il y a un mois et demi. On a alerté dès le printemps que l'enveloppe serait pas suffisante pour répondre aux besoins. On sent bien que les gens ont envie de changer de système, de pratique agricole. Et on a besoin d'être soutenu par l'État. Donc tant mieux, 150 millions. On ne sait pas encore comment va être fait les arbitrages et la répartition territoriale. Ce que je sais, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, il nous manque encore 60 millions d'euros pour satisfaire l'ensemble des demandes 2023. Donc j'espère qu'on va pouvoir en récupérer une enveloppe conséquente. Et c'est bien la mobilisation de la Confédération paysanne avec le réseau CIVAM qui a priori permis cette rallonge budgétaire. Et si elle est bien répartie pour 2023, pourrait permettre de satisfaire un grand nombre des demandes.
Voilà, c'était Benoît Jaunet au micro de Jacqueline Pinon. La réorganisation du service des bibliothèques de l'Aglo de Bé se met en place sur le terrain suite à une réflexion globale menée sur l'ensemble des 23 bibliothèques du territoire. Dans les mois à venir, le réseau sera constitué de 13 bibliothèques communautaires, de points retrait biblio et de bibliothèques communales associées au réseau. Sur le Bressuirais, 3 d'entre elles sont concernées par cette réorganisation, Terve, Saint-Sauveur et Beaulieu. Les explications d'Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, au micro de Patrice Bémanangy.
Après avoir vu le nombre de personnes sur certaines bibliothèques, notamment des communes déléguées, eh bien nous avons pu rediscuter de l'organisation globale sur le territoire de l'Aglo de Bé. Et nous arrivons donc à 13 bibliothèques, dont une tête de secteur qui est quand même sur Bressuire, mais où sur Saint-Sauveur et Terve, il y aura désormais des points relais. Et peut-être sur Beaulieu, nous l'espérons, une équipe de bénévoles bénévoles qui prendraient cette bibliothèque en main. Alors oui, il y a des bénévoles de motivés sur Beaulieu, mais c'est sûr qu'ils ont envie de grossir l'équipe. Donc j'invite tous les Belle-Île-Océens et Belle-Île-Océennes à se joindre à eux pour faire vivre ce lieu au cœur de la commune déléguée.
Et cette réorganisation des bibliothèques de l'Aglo de Bé devrait être effective en juin 2024. Ce soir, le Fauteuil Rouge de Bressuire projettera le documentaire Les Voix Jaunes, portant sur le mouvement des Gilets jaunes, réalisé par Sylvestre Meinzer. La photographe et documentaliste sera présente pour débattre avec le public à la fin de cette projection initiée par la Ligue des Droits de l'Homme. Rendez-vous au Fauteuil Rouge de Bressuire à partir de 20h ce jeudi. La boxe se développe à Noeuilly-les-Aubiers. Le Boxing Club Bressuirais va en effet devenir le Boca Box 79. Les entraînements ont déjà commencé sous la conduite de Jonathan Huvelin dans la salle de la Ronde, avec des séances le lundi et le jeudi pour une vingtaine de garçons et filles à partir de 13 ans. À Bressuire, les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi. Le président Alain Courteil.
Avec la ville, on a pu monter des potences. Les sacs, bien sûr, hein, pour la frappe. Bon, on ne pourra pas mettre de ring parce qu'on est dans un donjon, donc c'est pas possible. Mais bon, déjà, on a la surface déjà pour s'entraîner et tout. Quand il fera beau, on a un terrain qui est derrière, j'ai vu ça. On pourra courir déjà. Et c'est essentiel au sport parce que la boxe, ça demande énormément de cardio. Un gros potentiel ici à Noeuilly-les-Aubiers, puisqu'on a déjà deux filles de Noeuilly-les-Aubiers qui sont qualifiées pour les championnats de France amateurs, ce qui est déjà pas mal.
Comment s'appelle-t-elle ?
Alors, c'est justement les filles de l'entraîneur Shena Huvelin et Valinka Huvelin. Valinka était championne de France en boxe éducative.
Le président du club, Alain Courteil, est ravi d'ouvrir cette nouvelle section, d'autant que Noeuilly-les-Aubiers dispose de bonnes installations et que la municipalité a joué le jeu et prépare conjointement avec le club l'organisation d'un gala au mois de mars, le 23 précisément, avec des combats pro et amateurs. Arnaud Gelé, adjoint au maire chargé des sports.
Comme on a pu déjà le proposer sur des événements précédents, c'est-à-dire le championnat de France de Parabad ou le futsal l'an dernier, ou là récemment encore le show de gymnastique, les enfants des écoles seront aussi mobilisés, donc les après-midi et la journée du vendredi, pour venir découvrir ce que c'est que la boxe.
Il y a en tout cas du potentiel à Noeuilly-les-Aubiers, selon Alain Courteil, et Nicolas Billy, responsable des sports à la ville, le pense également.
C'est des jeunes ados qui n'aient pas forcément d'activité sportive et qui se retrouvent là sur cette nouvelle activité qui vient de prendre et de bien prendre. Une vingtaine de signatures en deux mois, c'est plutôt intéressant, c'est un bon début. Donc en effet, c'est une offre, c'est pour ça que moi je l'ai appuyé. On pensait qu'il y avait un potentiel sur Noeuilly-les-Aubiers, lui, on était persuadé, donc je pense qu'on est sur le bon chemin avec cette nouvelle offre.
Cette passerelle avec les écoles, c'est important aussi pour ancrer un sport sur une commune.
C'est un sport olympique, donc ça rentre tout à fait dans nos missions et dans nos volontés là en tant que terre de jeu. C'est aussi montrer que la boxe c'est pas la violence, hein, c'est de la boxe éducative qu'on va leur faire découvrir sur la journée du vendredi. Donc il y aura cette passerelle le 22 mars avec tous les collégiens du collège Abbé Pierre de Noeuilly-les-Aubiers qui pourront découvrir la boxe éducative avec les éducateurs du club, les éducateurs de la commune, et qui feront donc ça fera la passerelle en effet avec le gala du lendemain.
Retenez la date donc pour le gala de boxe à Noeuilly-les-Aubiers, ce sera le 23 mars. L'avenir dira s'il fait autant parler de lui que Freddy en son temps. Un éleveur de Sévrien va participer à la prochaine édition de L'Amour est dans le Pré. Pascal, 58 ans, installé du côté de Parthenay, participe à l'émission de M6 pour trouver l'âme sœur. Coup d'envoi de l'édition 2024 le 8 janvier.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le ciel était gris ce matin, il le sera encore cet après-midi. Pas d'évolution à attendre côté ciel. Le temps reste sec a priori. Les températures déjà douces ce matin le seront aussi cet après-midi. 12 degrés en moyenne pour les maximales. On retrouvera le même type de temps demain, vendredi. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.